Il est bien évident que le suivi spirituel, jusqu'à Freud, ben c'était un ami, un sage, un père, une mère, un frère, une sœur, un grand-père, une grand-mère, le prêtre. Vous voyez, vous alliez voir votre grand-mère et vous alliez lui dire tout ce qui vous pesait sur le cœur. Votre grand-mère dégonflait les baudruches. Elle dit, mais non, il ne faut pas, on est passé par là, tout ça. Si vous alliez voir votre copain, il dit, oh, une perdue, 10 de retrouver. Ça ne nous console pas forcément dans la déception amoureuse. Vaut mieux aller voir sa grand-mère. Mais si vous voulez, la grand-mère, à la fin, ne disait pas, bon, je t'ai écouté pendant une demi-heure, mon cher petit-fils, ma chère petite-fille, c'est 80 euros. Mais depuis le 19e siècle, le 20e siècle, on vous fait payer pour vous aider spirituellement, intellectuellement, volontairement, et vous sortir d'une tristesse excessive. C'est génial.
Même les postiers qui font.
Comment ?
Il y a même les postiers qui font.
Oui.
Ils vendent leur service pour rendre visite à votre grand-mère pendant 5 minutes et c'est évidemment payé.
Voilà, mais ça, c'est plutôt de l'accompagnement. Il y a un service à la personne. Vous voyez. C'est les dames de compagnie étaient rémunérées dans les familles bourgeoises. Or, ce n'était pas de l'aide psychologique. Si, l'aide psychologique, c'est par rapport à la solitude à ce moment-là.
Oui, c'est là où je voulais en venir. Avant, c'était un service qui faisait de manière gratuite.
Ah oui, que les postiers maintenant se fassent rémunérer pour dire bonjour et prendre un petit café avec la grand-mère, ça commence à. C'est, en fait, c'est pour inciter peut-être aussi les facteurs à passer plus de temps avec les gens, mais surtout à renouer du lien au fin fond des campagnes. Enfin, c'est un peu dommage en effet de le rémunérer. Mais il est bien évident que pendant des siècles, que ça soit dans la vraie religion ou que ce soit dans les religions que l'homme a édifiées de briques et de brocs, parfois, plus ou moins fidèles à la religion naturelle, eh bien, il est bien évident que Confucius, n'est-ce pas, ou les livres de la sagesse, c'était une manière de nous consoler, de nous ramener au réel. Et qui était de la simple psychologie naturelle forte. Seulement, la psychologie naturelle ne suffit pas, et il y a l'action surnaturelle de Dieu. Voilà. C'est pour ça qu'actuellement, vu que dans les hôpitaux psychiatriques, il n'y a pas de place pour la religion, vous avez des personnes qui ne sont pas soignées rapidement. Comment ? Pas toujours, pas toujours. Ça dépend du chef de service, de la manière dont on laisse l'accès. Hein. Vous avez une clinique privée n'a pas l'obligation d'avoir un aumônier. Alors, vous avez d'autres passions. Par rapport à un bien difficile, mais que l'on considère comme pouvant être atteint, ça va être difficile, mais on va y arriver. On a l'espoir. Eh bien, c'est une passion de l'âme, l'espoir. Au sens large, c'est l'espérance. Quel est l'objet de l'espérance? C'est la promesse de Dieu. L'espérance, espoir sont des synonymes. Alors, bien sûr, on pourrait faire des différences, mais je ne veux pas. L'espoir, c'est par rapport à un bien. Le désespoir, c'est par rapport à un bien. Et ça, par contre, on confond souvent tristesse et désespoir. Tristesse, c'est le mal qui est sur nous et qui nous accable. Le désespoir, c'est le bien que l'on espérait et qu'on n'attend plus. Le désespoir. Alors, c'est un mal, le désespoir. Donc, le désespoir et la tristesse sont très proches. Mais on peut être triste parce qu'il nous arrive une épreuve. Mais quand on est triste parce que un bien qu'on souhaitait n'est pas là, c'est plus du désespoir que de la tristesse. si on veut utiliser des termes précis. Je suis désespéré parce que j'ai manqué mon code. Et que pour avoir mon permis de conduire, ça va être difficile. Je vais avoir encore à repasser mon code. Je suis désespéré. Et bon, il vaut mieux être désespéré parce que son fils se drogue à nouveau et reprendre espoir parce que on repart au combat pour le sortir de la drogue. Et ensuite, vous avez la réponse à un mal. La crainte. C'est un bien, c'est un mal qui vient vers vous, mais qui ne vous écrase pas en perspective. Vous craignez ce mal, mais vous pensez que vous pourrez y résister. Réponse de l'appétit sensible à un mal sensible difficile qui arrive en tant qu'un mal, alors là il y a une faute d'orthographe là dans ce, en tant qu'il peut être évité. Est-ce que vous pouvez me qu'il peut être évité, mais il peut être évité. Qui peut être évité. C'est la passion humaine face à un mal qui n'est pas là, mais qu'on pense pouvoir surmonter. Vous voyez ? Excusez-moi.
Une menace.
On pense pouvoir surmonter.
Une menace, c'est une menace.
Oui. La menace d'un mal que l'on pense pouvoir surmonter. L'audace, c'est une passion. C'est le courage par rapport à un mal. Réponse de l'appétit sensible à un mal sensible ardu en tant que quelque chose d'ardu à surmonter et qui, comment dire, est plus proche que le mal éloigné qui arrive par rapport à la crainte. La colère. C'est plus par rapport au mal, mais c'est l'irascible chez l'être humain peut aussi nous permettre de ne pas laisser échapper un bien. Ne pas laisser échapper un bien, ne pas laisser échapper un bien pour ne pas vivre le mal de son absence, eh bien, la colère aide à ne pas laisser échapper ce bien.
La sainte colère.
Mais c'est une énergie supplémentaire pour atteindre, pour garder ce bien, ou pour l'obtenir. Hein. Une énergie pour atteindre, obtenir le bien désiré. Mais il est vrai que de manière plus fréquente, la colère est par rapport à un mal qui est présent. On se défend. Vous voyez ? On se défend. Ce mal est là et on se débat. On se débat, voyez, face à ce mal. Voyez, d'ailleurs, on se met en colère dans une situation conflictuelle pour repousser, voyez, pour repousser le mal. Comment ? Non, l'audace est avant la colère. L'audace, c'est la première réaction par rapport à un mal difficile qui vient et qui est très proche et qui est là. On a de l'audace. Et s'il nous faut une énergie supplémentaire, on se met en colère. Oui.
Répétez, pourquoi c'est une passion irascible ? Parce que vous faites ce que l'espoir, irascible, colère.
Le désespoir, non, c'est pas irascible. C'est une... comment dire... c'est une erreur de présentation. L'irascible, au sens large, c'est par rapport au mal. Réaction par rapport au mal. C'est pour ça que le terme est un peu trop philosophique et induit en erreur. Donc c'est pas une erreur, mais j'aime pas beaucoup le terme de passion irascible au sens large par rapport au mal, parce que sinon la colère, qui est un peu singulière par rapport aux passions, par rapport à l'amour ou à la haine, au bien ou au mal, c'est un peu central, la colère. D'où
appétit irascible, réponse au bien ou mal sensible.
Voilà.
L'appétit irascible n'est pas une réponse au bien.
Si, lorsqu'il nous échappe, et qu'on veut le garder, l'obtenir. D'où le deuxième tableau qui récapitule ce que je viens de vous dire. Oui. Oui.
Oui, le courage.
Oui, mais ça, le courage, c'est un mot un peu neutre. Ça peut être par rapport au bien aussi. Mais l'audace est techniquement par rapport. On a l'audace de résister au mal.
Il y a un mouvement.
Oui. L'audace. Mais la bravoure, en fait.
Mouvement.
Oui, c'est une réaction par rapport au mal. Par rapport à la fuite, par rapport à la crainte.
Il y a un mouvement en avant.
Voilà.
Et la bêtise humaine n'est pas dedans.
La quoi ?
La subjugation.
Pardon ?
La bêtise humaine n'est pas mise au
centre. C'est pas.
Non, mais c'est la témérité. La bêtise, c'est un mot trop familier. C'est la témérité. C'est-à-dire affronter un mal alors qu'on n'a pas les moyens. C'est la témérité. Oui. Et vous vouliez. Oui, voilà, c'est ça. L'audace, normalement, c'est par rapport au mal. Mais le courage est plus neutre, mais c'est plus aussi par rapport au mal. On affronte une situation difficile. Mais cette situation difficile, c'est un bien, c'est un mal en creux, puisqu'on veut surtout le bien de la surmonter. Vous avez un travail difficile à faire. C'est quand même pas un mal de travailler. Et vous avez un travail à rendre, un exposé. Et c'est un mal, c'est mon ennemi. Cet exposé est mon ennemi. Mais en même temps, l'œuvre d'intelligence d'avoir fait cette présentation est un bien. Oui, le professeur qui vous pousse à synthétiser vos connaissances n'est pas votre ennemi. Voyez. Or, dans la présentation actuelle par rapport à l'adolescent, c'est le travail est un ennemi. L'ordre est un ennemi. Voyez. Laver ses affaires ou ses chaussettes, c'est un ennemi. Avoir des chaussures, avoir des baskets sales, c'est un bien. C'est une inversion, oui.
Alors, est-ce qu'il est dans la guerre juste, finalement, ça se passe comment ?
Eh bien, justement, grâce à ces notions de bien et de mal, c'est la guerre juste. Alors, le tableau des passions que vous avez là, qui récapitule ce que je vous ai dit. Le bien, le mal, c'est clair. Ah, mais vous êtes manichéen et tout ça. Non. Le cyanure, la strychnine, la ciguë, le curare, c'est mal. Ah oui, mais il faut être plus nuancé dans le mal moral. Oui, enfin, frapper un bébé, comment dire, bousculer une vieille dame, ça c'est un mal absolu. Ah oui. C'est un mal absolu, c'est amusant. Hein, il n'y a jamais la possibilité de frapper un bébé. Jamais. C'est impressionnant. Comme il n'y a jamais la possibilité d'avorter. Hein? Jean-Paul II, dans son magistère, bien sûr c'était dit avant, hein, mais il, de manière contemporaine et claire, il dit c'est un mal absolu. Personne n'a le droit d'avorter. C'est impressionnant. L'opposition qu'il y a entre les médias, le Parlement français et d'autres parlements, et la loi naturelle. C'est au point que on dit en philosophie que la loi sur l'avortement n'est pas une loi, elle n'oblige personne.
C'est dans le Lévitique.
Mais, Oui. Voilà. Récapitulatif de ce tableau en haut. Les passions. Par rapport au bien et par rapport au mal. L'amour, c'est par rapport au bien en lui-même, de manière générale. Nous aimons tout ce qui est bon, tout ce qui nous fait du bien et tout ce qui est un bien. La haine, c'est tout ce qui est mauvais. Alors quand on a de la haine par rapport à quelqu'un, ça veut dire qu'il a posé des actes, il nous a insultés, il nous a déshonorés et on le déteste. Mais détester quelqu'un en quelques minutes dans le métro parce qu'il vous a bousculé ou parce qu'il vous a insulté, eh bien ce n'est pas vertueux. Est-ce qu'il faut être un vieux chinois sage et paisible qui se fait bousculer dans le métro et qui dit « Je suis insensible à cette offense, le pauvre, il ne sait pas ce qu'il fait » ou alors s'il est vraiment, vraiment dans sa philosophie assez sévère finalement, il n'existe pas. Ça ne sert à rien de réagir, c'est un mal supplémentaire. Je ne dois pas désirer rétablir la justice. Non, le sage chrétien va se dire, c'est un pauvre pécheur comme moi, il ne sait pas ce qu'il fait. La justice est offensée, c'est un mal, mais je lui pardonne. C'est tout à fait différent, hein. Entre celui qui ne réagit pas parce qu'il n'y a pas de justice sur cette terre, de toute façon, exister, c'est déjà une souffrance. Vive le nirvana, c'est pas pour la même raison. Vous voyez, c'est important, hein, parce que ça fonde des pays. Et actuellement, les Chinois souffrent de leur paganisme, parce qu'ils sont très fatalistes. Et les Hindous aussi souffrent de leur fatalisme. Tu es né comme ça, tu vis comme ça, tant pis pour toi. Donc c'est pour ça que les missionnaires voulaient apporter au peuple qui avait des religions avec des défauts la pleine lumière. C'est pour leur bien, c'est pas pour imposer un modèle culturel. C'est pour leur proposer la vérité. Et c'est pour ça qu'il y avait des missionnaires. Actuellement, on nous dit que toutes les religions sont des cultures imposées aux uns aux autres. Alors ça veut dire qu'il n'y a plus un vrai Dieu et une vraie religion. Qui dit vrai Dieu, vraie religion, actuellement dit « Ah, mais vous êtes prosélyte, dictateur ». C'est impressionnant. Donc il n'y a pas de vérité alors. Il n'y a même pas de vérité historique. Est-ce que Jésus est vraiment venu? Est-ce qu'il a vraiment fait des miracles? Est-ce qu'il est vraiment ressuscité? Oui. Alors, l'amour, la haine, le désir pour le bien absent, l'aversion et la fuite du mal encore absent, là il y a une belle faute, c'est le mal. Allez. Joie du bien présent, tristesse ou douleur du mal présent, espoir du bien ardu mais atteignable, audace face à un mal menaçant mais surmontable, désespoir du bien qui semble inaccessible, crainte excessive, hein, là ici, face à un mal menaçant et peut-être insurmontable, et la colère face au mal présent, mais le fait de manquer le bien, de risquer de manquer un bien peut nous faire mettre en colère par rapport au mal de manquer ce bien. Donc c'est une énergie. Voilà, eh bien on n'a pas pu aller plus loin. Donc, ce qui fait que la prochaine fois, nous verrons les péchés capitaux qui nous mettent en action toutes ces passions de l'âme. Mais pour résumer, sachez bien qu'il faut toujours savoir, plus que les joies, c'est pourquoi on est triste, mais aussi pourquoi on est joyeux. Qu'est-ce qui nous réjouit? Qu'est-ce qui nous console? Qu'est-ce qui nous délasse? Parfois, ce sont des biens médiocres, mais ça nous délasse, quoi. C'est comme un bonbon ou un chocolat. Si vous voulez, il y a des personnes tristes qui prennent un chocolat pour sortir de leur tristesse. Mais c'est peut-être autre chose qu'il faut faire. Oui ? Eh bien, il faut demander conseil à quelqu'un qui nous aime, à un ami, une amie, à un prêtre, lui parler de sa vie. Alors bien sûr, il y a le denier du culte une fois par an, et il y a la quête le dimanche, mais vous pouvez donner 2 euros ou 50 centimes. Ça vous coûtera moins cher que 60 euros ou 80 euros la consultation. N'oubliez pas que quand vous demandez rendez-vous avec un prêtre, il ne vous demande rien à la fin. Voyez. Et vous videz votre sac. Eh bien, auparavant, si vous voulez, comme le fait de passer 30 minutes avec un prêtre ou une heure avec un prêtre, ça pouvait se faire dans le passé, quand il y avait 10 vicaires par paroisse en ville, ou quand il y avait un curé et 2 vicaires en campagne. Si vous n'osez pas parler longuement avec un prêtre, en disant « mais je vais le déranger, tout ça », osez. Sinon, à travers les siècles, c'était à la confession aussi, qu'on déchargeait notre tristesse, et qu'on disait en confession des choses qui nous peinaient, pas forcément nos péchés.
Que répondre aux objections modernes sur les prêtres ?
Comment ?
Que répondre aux objections modernes sur le rôle des prêtres ?
Et quelles sont ces objections ? Oui, mais alors les psychologues, les psychiatres, pas plus. Et les prêtres, eux, ont la version des enfants, des parents, des cousins, des cousines, de la belle-mère, des oncles, des tantes. À la fin, ils commencent à connaître le problème d'une manière bien plus universelle que ce que quelqu'un vit. Et c'est la raison pour laquelle un vieux prêtre a une science humaine incroyable. Parce qu'il en a entendu des versions, et de tous les côtés. Normalement, un vieux prêtre est un excellent, je dirais, prêtre, un excellent psychologue, connaissance de l'âme, de la psyché. Et le Saint-Curé d'Ars avait des inspirations divines, où les anges gardiens lui révélaient certaines choses de ses pénitents, mais lui-même était sans doute d'une très grande intelligence psychologique et spirituelle. Il y a les deux. Et vous avez des prêtres qui ont telle ou telle qualité, mais qui ne seront pas forcément de très bons confesseurs. Eh bien, quand vous avez un prêtre qui est très bon confesseur et qui a une très bonne écoute, qui donne de très bons conseils, eh bien, en général, il finit par être à Saint-Louis-d'Antin et il confesse pendant des heures. Et parce que providentiellement, le bon Dieu ne va pas mettre un prêtre nul dans une telle mission d'être un confesseur régulier. Tout ça pour apaiser et apporter le bonheur. Mais au nom de la vérité, parce que pour finir, voyez-vous, la philosophie ne nous donne pas toutes les réponses. Un Dieu qui s'est fait homme, une femme comme la Vierge Marie, nous donne plus de consolation que toute la philosophie du monde. À un moment donné. Mais il faut quand même savoir ces mots-là, ces passions de l'âme, pour un peu aussi savoir comment on fonctionne et comment réagir.